La question du genre dans la tête au carré, que nous dit ce concept sur l'identité sexuelle au moment où une polémique fait rage sur la question de l'influence et de la construction sociale? Pour en parler, je suis avec la neurobiologiste Catherine Vidal et le sociologue Éric Fassin. Vos courriels arrivent en direct sur franceinter.fr. Alors Catherine Vidal, Éric Fassin, on peut au moins reconnaître une vertu à la fronde des députés UMP face à l'étude du genre dans les manuels scolaires, c'est de permettre quand même de revenir aujourd'hui sur une notion qu'on ne maîtrise pas toujours très bien et qui nécessite même, il faut l'avouer, un peu de pédagogie. C'est vrai que, Éric Fassin, la question du genre est un concept assez complexe quand même, non ?
Alors je crois qu'effectivement, il y a une pédagogie, et en particulier, il s'agit bien de manuels scolaires, où on explique ce que ça veut dire, comme le demande le programme, que devenir homme ou devenir femme. Et ça, c'est la question qui est centrale pour le genre. C'est-à-dire qu'au lieu de partir d'une sorte d'évidence selon laquelle on sait ce que ça veut dire, un homme, une femme, tout le monde sait bien, en réalité, pour la science, c'est quelque chose qui demande une réflexion, qui demande des outils pour penser qu'est-ce que c'est que le sexe, qu'est-ce que c'est que la différenciation entre les sexes, à la fois d'un point de vue biologique, mais aussi d'un point de vue sociologique. Donc, il y a une pédagogie. Et simplement, moi, je me réjouis beaucoup que vous organisiez cette émission de discussion dans un cadre scientifique, parce que ce qui se passe depuis quelque temps, c'est qu'on a une polémique politique qui est lancée et qui fait qu'on se retrouve dans une drôle de discussion où il y a d'un côté des scientifiques qui essaient de défendre leur domaine, mais face à des gens qui prétendent trancher de ce qui est scientifique et de ce qui ne l'est pas.
Oui, parce que les politiques s'expriment au nom de la science.
Voilà. Et y compris en allant, comme par exemple un député, M. Nem, qui s'adresse à la Miviludes, c'est-à-dire à une association, à un groupement de lutte contre les sectes, en considérant que les études de genre, c'est une secte. Donc on a un renversement complet, c'est-à-dire que ce sont les politiques qui prétendent trancher de ce qui est scientifique ou de ce qui ne l'est pas, et les scientifiques qui ont à se justifier du fait que ce qu'ils font, c'est de la science.
C'est un peu gênant aux entournures, Catherine Vidal, non, cette situation ?
C'est évidemment un sujet qui est au cœur de nos préoccupations pour nous en tant que scientifiques. On a besoin de défendre la réalité de la démarche scientifique, de la recherche scientifique. Et cette recherche scientifique, elle s'inscrit évidemment dans un contexte social, économique et politique. Et on ne peut comprendre la réalité de ce débat que si on a une ouverture suffisamment large sur ces questions. Bon, ce qui est important, c'est pour moi personnellement, dans ma qualité de neurobiologiste, il est important de faire un état des lieux sur les savoirs, les connaissances, surtout les connaissances acquises récemment sur ce qu'on appelle la différenciation sexuelle, l'identité sexuelle. Il existe un concept qui est extrêmement important pour éclairer ces sujets, qui est le concept de plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale signifie que notre cerveau n'est pas programmé dès la naissance pour, par exemple, générer des aptitudes, des comportements et des personnalités qui seraient le fait des femmes ou le fait des hommes. On sait depuis une vingtaine d'années que notre cerveau fabrique en permanence des nouvelles connexions entre les neurones en fonction des apprentissages et des expériences vécues.
Et tout au long de la vie ?
Tout au long de la vie.
Ça ne s'arrête jamais ?
Ça ne s'arrête jamais. Et ce processus qui fait que le cerveau va se façonner en fonction du vécu de la personne est vraiment une révolution conceptuelle pour nous. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait cette vision un peu binaire d'une opposition entre nature et culture.
Avec un déterminisme.
Voilà. Alors, les uns défendaient l'idée d'un déterminisme génétique de l'identité sexuelle en disant, dès le départ, par nature, les hommes et les femmes ont des comportements et des aptitudes différents. Alors, cette notion-là suppose qu'il existerait dans notre cerveau des circuits de neurones qui sont déjà figés, qui feraient que nos aptitudes, nos émotions, nos valeurs seraient déjà programmées dès la naissance. Face à cette vision, on peut réfléchir maintenant différemment grâce à cette notion de plasticité cérébrale qui montre que justement, rien n'est jamais figé dans le cerveau.
Alors justement, ça c'est intéressant Eric Fassin, parce qu'on voit à quel point différentes disciplines scientifiques, autant du côté des sciences humaines et sociales, ce qu'on appelle les sciences molles, que du côté des sciences dures, comme par exemple la neurobiologie, ont des choses à s'apporter aussi sur cette question du genre.
Exactement, et c'est le contraire de ce que nous disent aujourd'hui les députés et les sénateurs qui se mobilisent contre ces manuels. Parce que ce qu'ils disent, c'est, bien sûr, on a le droit de parler de tout ça, mais pas dans les cours de SVT. On peut en parler en philosophie, on peut en parler en sciences économiques et sociales, mais puisque c'est social, eh bien, on n'en parle pas en biologie. Or, je crois que ce qu'on voit et ce qu'on entend dans ce que vient de dire Catherine Vidal, mais aussi, je crois qu'il ne s'agit pas seulement de ce qu'elle nous dit, elle, sur le cerveau, mais d'un ensemble de travaux, eh bien, c'est qu'il n'y a pas d'un côté la biologie qui n'aurait aucun rapport avec la société, et de l'autre, la société qui n'aurait aucun rapport avec la biologie. Nous vivons dans le même monde. Les corps sont des corps sociaux en même temps qu'ils sont biologiques. Ce sont les mêmes personnes. Donc je crois que ce que contestent les attaques politiques contre ces manuels de SVT, ça n'est pas tant le genre que le fait qu'on puisse avoir ces échanges, qu'on puisse avoir ces discussions, que des élèves entendent parler, y compris dans leurs cours de SVT, de choses qui sont à la frontière entre le biologique et le social. C'est ça, me semble-t-il, l'enjeu intellectuel le plus important. Mmh. Et je crois que d'un point de vue scientifique, au lieu de considérer que le genre met en péril le travail scientifique, il me semble qu'il faut bien voir qu'il joue un rôle important aujourd'hui dans l'échange entre les savoirs. C'est-à-dire qu'on a très souvent un partage entre, d'un côté, les gens qui sont dans les sciences de la nature et de l'autre, ceux qui sont dans les sciences humaines, qui se parlent très peu. Le fait que nous ayons la possibilité d'avoir ces échanges à propos de ce qu'on peut appeler le genre, il me semble que c'est scientifiquement une bonne chose.
Alors, cette affaire n'a pas commencé, évidemment, en tout cas ce débat autour de la question du genre n'a pas commencé avec les députés UMP. Déjà, avant l'été, fin mai, Christine Boutin, la présidente du Parti chrétien-démocrate, avait dénoncé cette idéologie à l'œuvre dans les programmes scolaires. Et je vous propose d'écouter Claude Berruet, le secrétaire général de l'enseignement catholique, qui s'exprimait le 3 juin dernier sur l'antenne de France Inter.
Pour nous, la différenciation sexuelle existe. L'hétérosexualité est le donné naturel. Et puis, nous faisons le constat ensuite qu'un certain nombre de personnes vivent autrement. Nous les respectons, mais nous ne pensons pas qu'on puisse faire de cette façon de vivre une norme à côté d'une autre norme. Il ne nous semble pas très responsable, avec des jeunes qui sont en train justement de structurer leur identité, de dire qu'il n'y a pas de modèle ou qu'il n'y a pas de norme.
Alors, c'est intéressant hein, ce que dit justement ce monsieur Claude Berruet, parce que la question de la norme vous intéresse beaucoup, Éric Fassin, voir comment les choses se structurent précisément, là aussi ça rejoint l'histoire du cerveau dont nous parlait tout à l'heure Catherine Vidal. Qu'est-ce qu'il y a au fond derrière les propos de ce monsieur? Quelle est la crainte qui pointe dans ses paroles hein, qui n'est pas justement de normes préétablies?
Alors la première chose, effectivement, c'est quand même qu'à nouveau, on a une sorte de paradoxe, je le disais tout à l'heure pour les politiques, mais là, on a les religieux qui, dans certains cas, interviennent et prétendent trancher de ce qui est scientifique. Donc il y a un problème majeur, me semble-t-il, c'est est-ce que tout le monde, sauf les scientifiques, a le droit de décider de ce qui est scientifique ou pas? Mais d'autre part, il y a la question que vous posez, effectivement, c'est pourquoi tant d'inquiétude? Eh bien l'inquiétude, il me semble qu'elle a à voir avec la définition des normes. C'est-à-dire, de deux choses l'une, soit les normes, eh bien c'est nous tous, qui les définissons. Et donc, qui sommes susceptibles de les redéfinir, de changer nos définitions des rôles sociaux que nous attribuons aux hommes et aux femmes. Soit au contraire, nous considérons que ce que c'est qu'être un homme et ce que c'est qu'être une femme découle d'une nature, et en particulier de la biologie. C'est le biologisme dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire on est dans une logique de détermination. Mais évidemment, ça a des conséquences politiques immédiates. C'est-à-dire que si on dit que l'ordre du monde tel qu'il est, il n'est pas donné une fois pour toutes et que c'est nous qui le définissons, ce n'est pas la même chose que si on dit « mais moi je sais parce que la nature, parce que Dieu, parce que la tradition, je sais comment ça a toujours été et comment ça doit toujours être ». Or, il me semble que nous vivons aujourd'hui dans des sociétés où, précisément, depuis longtemps, et pas seulement en matière de sexualité, mais en matière de genre, précisément, c'est-à-dire des rôles masculins et féminins, nous ne considérons plus que ce que c'est qu'être un homme ou une femme est défini simplement par la biologie. Nous pouvons choisir de modifier les attentes en matière de normes concernant les hommes et les femmes.
Alors justement, Catherine Vidal, qu'est-ce que vous répondez à Claude Berruet, qui parlait tout à l'heure de structuration, à un âge justement où les enfants se structurent, à l'âge justement de ces manuels scolaires. Précisément, ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est qu'on se structure à tout âge de la vie.
Oui, et surtout, les éclairages nouveaux des progrès des connaissances scientifiques montre à quel point l'influence de l'environnement au sens large, l'influence de la famille, de la société, de la culture, va contribuer à façonner et à forger notre cerveau. Ce n'est pas simplement une position un petit peu théorique. On peut maintenant le voir. On peut le voir grâce aux nouvelles techniques d'imagerie cérébrale, hein, comme l'IRM, qui ont permis justement d'étudier un cerveau vivant en train de fonctionner. Parce qu'auparavant, quand on voulait étudier le cerveau humain, on avait soit des cerveaux dans le formol, soit on avait des données cliniques qui venaient de pathologies, de personnes qui avaient par exemple des lésions dans le cerveau et on voyait des déficits. Or, depuis une vingtaine d'années, avec l'avènement de ces nouvelles techniques d'imagerie cérébrale, on voit le cerveau à l'œuvre chez des personnes normales, comme vous et moi. Et là, les conceptions qu'on avait auparavant du fonctionnement du cerveau ont forcément évolué. Alors, chose très importante, on sait maintenant que à la naissance, le petit bébé humain naît avec un stock de neurones, environ 100 milliards, mais seulement 10% de ces neurones sont connectés à la naissance. Cela signifie que 90% des connexions de nos 100 milliards de neurones vont se fabriquer après la naissance. Cela signifie également que la structuration même de la matière cérébrale est en fait le reflet intime de l'influence de l'environnement. Mmh. Et de ce fait, le dilemme ancien d'une opposition entre nature et culture est complètement dépassé. Nature et culture sont absolument indissociables et on a complètement repenser sur le plan conceptuel comment se fabrique un cerveau et comment, évidemment, se forgent nos personnalités en tant que femmes et hommes.
Alors justement, ce message de Claire, le genre, dit-elle, est une catégorie grammaticale et non biologique. Il faut distinguer mâle-femelle de masculin-féminin. Un homme n'est pas féminin parce qu'il aime les hommes. Une femme n'est pas plus féminine parce qu'elle aime le rose. Moi, j'aime mieux le bleu, dit Claire. Je suis douée en maths. Suis-je pour autant un homme alors que je suis de sexe féminin? C'est la société qui associe des idées toutes faites au sexe, à l'homme zoto, la technique, la femme, l'aspirateur, les couches, la cuisine. Éric Fassin.
Moi, je crois qu'effectivement, cette auditrice a parfaitement raison. Nous savons tous bien qu'il y a des normes qui nous incitent à nous comporter de telle ou de telle manière selon que nous voulons être reconnus en tant qu'hommes ou en tant que femmes. Donc, ces normes, nous avons tous à faire avec. Et en ce sens-là, je crois que le champ d'études qui s'est développé autour du genre ne prétend pas qu'il n'y a pas de normes, bien au contraire. Et en ce sens-là, il y a un malentendu à la fois chez les députés, mais aussi du côté des critiques formulées par le Vatican contre la notion de genre, c'est que ça ne dit pas « chacun fait ce qu'il veut », ça dit au contraire « il y a des normes et on essaie de faire avec ». Donc, c'est la première chose, il y a des normes. Mais je voudrais souligner un deuxième point que disait Catherine Vidal. Je crois qu'effectivement, l'idée qu'il n'y a pas une opposition simple entre choisir son camp, entre la nature et la culture, mais que c'est précisément cela qui est remis en cause, je crois qu'on a là quelque chose de très important. Parce qu'au fond, l'inquiétude des députés, c'est, et des sénateurs, c'est aujourd'hui qu'on remette en cause une sorte de naturalisme qui serait une sorte de fondement du sens commun. Je crois que précisément, il s'agit de remettre en cause un sens commun. La science n'est pas faite pour conforter le sens commun, elle est faite pour l'interroger. La troisième remarque, c'est le fait que les députés et sénateurs disent souvent qu'au fond, nos charmants bambins ne seraient pas prêts à entendre ces choses un peu bizarres, c'est-à-dire à entendre que le monde de la sexualité et des sexes n'est pas entièrement naturel et qu'il est pris dans ce jeu entre nature et culture.
Et qu'il est pluriel.
Eh bien, moi, je pense que c'est tout le contraire. Il y a dans un des manuels, le manuel Belin, un dessin où on voit un père rougissant qui vient parler de sexualité à son fils. Et il lui dit, voilà, c'est à propos de la petite graine. Et le gamin qui est devant son ordinateur se tourne gentiment en lui disant, qu'est-ce que tu veux savoir, papa ? Autrement dit, je crois qu'on n'est pas du tout dans une situation où on a des adolescents ignorants, fragiles. On a, dans un contexte scolaire comme celui des classes de première, des adolescents qui se posent des questions. Et il me semble que le rôle de l'école, c'est de leur donner des éléments rationnels pour réfléchir à ce qui se passe autour d'eux et en eux.
Éric Fassin, Catherine Vidal, les messages arrivent sur franceinter.fr. Je vous les transmets dans un instant après Radiohead.
Vous écoutez La Tête au Carré, sur France Inter.
Moi, je considère que le fait que les hommes, en général, aient un pénis ne me concerne pas. Je me fous de savoir si les hommes ont un pénis ou pas. Moi, je suis un homme avec un vagin, c'est tout ce qui m'importe. Qu'il se trouve que 99% des hommes aient un pénis, je m'en tamponne complètement, quoi. Moi, je suis bien avec mon vagin, avec ma sexualité comme ça, avec mes sensations. Je suis tombé amoureux jeune, j'avais un vagin. Mes premières sensations, je les ai connues comme ça. Je ne sais aimer que comme ça, je sais faire que comme ça. Je vois vraiment aucune raison de... J'aime pas spécialement pisser debout. Pour la pénétration, on peut s'arranger.
Ah, c'est dans ta tête.
Ah ben, tout est dans ma tête.
Non mais d'accord, c'est pas dans l'acte lui-même, c'est pas dans le...
Mais c'est bien pour ça que je m'évertue à expliquer aux gens que le genre n'est pas entre les jambes, qu'il est entre les oreilles, quoi.
Voilà, le genre n'est pas entre les jambes, il est entre les oreilles. Extrait du documentaire de Serge Moati, Mes questions sur les trans, qui avait été diffusé en mai dernier sur France 5 avec Éric Fassin et Catherine Vidal. Donc nous parlons de la question du genre. Avec vos messages, celui de Marie-Ange qui nous dit ceci. Comment une radio de service public peut encore interroger Éric Fassin pour un sujet aussi grave que l'introduction des lobbies dans les livres d'école alors qu'il est lui-même un militant de ces lobbies LGBT? La contradiction est-elle interdite à France Inter? Je parie qu'il va dire que ce ne sont que des associations cathos qui s'indignent. C'est faux et c'est une athée qui vous le dit. Que direz-vous lorsque des lobbies religieux demanderont leur part? L'indignation est-elle un nouveau conformisme? Qu'est-ce que vous répondez à cette dame, Éric Fassin?
Écoutez, je trouve qu'elle fait la même chose que les députés, c'est-à-dire qu'elle s'autorise à trancher de qui est scientifique, qui ne l'est pas. Il me semble que une des caractéristiques de la vie scientifique, c'est que c'est un champ. C'est-à-dire que nos qualités, nos compétences, elles ne sont pas déterminées simplement par une sorte d'opinion vague, mais par des règles du jeu dans le métier dans lequel nous exerçons. Donc, je n'ai pas envie de me justifier sur ma compétence scientifique, mais il y a un autre élément, c'est que lorsqu'elle dit, au fond, parce qu'on aurait des engagements, on ne serait pas scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au fond, les savants seraient des gens qui n'auraient pas d'opinion sur le monde. Donc il me semble que c'est très grave, parce que précisément, il s'agit de faire comme si la science, ça n'avait rien à voir avec le monde dans lequel on vit. Je crois que c'est une conception de la science qui est tout à fait contraire à la réalité de la science.
Ce que veut dire cette dame aussi, et ça c'est une part de vérité dans son message, c'est que cette question du genre ne heurte pas simplement les députés de droite ou les catholiques, et qu'il y a effectivement des gens athées qui peuvent se poser des questions sur la façon dont la construction sociale joue vraiment un rôle dans le fait d'être un homme ou une femme.
Mais d'abord, il y a des athées de droite. Et je crois qu'effectivement, on a eu une première vague qui a été une attaque catholique, en tant que tel, au nom des associations catholiques, portée par Christine Boutin, qui est consulteur auprès du Vatican, et une deuxième vague, qui est de la droite populaire, et qui a été par exemple soutenue par Jean-François Copé, qui ne s'inscrit pas dans cette même histoire chrétienne. Mais je crois que ça ne veut pas dire, pour l'instant, moi je n'ai pas entendu une seule voix de gauche prendre parti avec les députés et avec les sénateurs de droite, je n'en ai pas entendu une seule. Donc l'idée qu'il y a de la politique là-dedans, il me semble que pour l'instant, c'est attesté par la liste des signatures des députés et des sénateurs qui sont des personnalités politiques.
Alors, quand on parle des manuels scolaires, d'ailleurs, on parle de quoi très exactement, Éric Fassin ?
Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que le programme dont nous parlons et qui fait controverse, il est réservé aux classes de première ES et L. Autrement dit, il ne concerne pas les classes de première S scientifiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il me semble que, en pratique, ça veut dire que les vrais scientifiques, ceux qui se destinent aux sciences de la nature, n'auraient pas besoin d'entendre parler de tout ça. C'est une manière de reconduire le partage entre la vraie science, qui serait uniquement biologique et coupée du social, et des sciences molles, qui seraient seules intéressantes pour des gens qui sont en dehors de la science, à savoir des littéraires ou des gens qui font des sciences sociales.
Alors ce message de Joël, ce qui me choque le plus, nous écrit-il, c'est qu'en 2011, on ose encore se mettre des œillères et parler de normes en ce qui concerne le genre sexuel. Nos politiques sortent-ils dans la rue? J'espère vraiment que mes enfants auront la chance de grandir dans un monde où on arrêtera de parler de normes. Catherine Vidal, vous parliez tout à l'heure de la plasticité cérébrale, justement de la construction de l'individu tout au long de sa vie, avec ses connexions neuronales donc, qui se font dans notre cerveau à tout âge. À quel moment de sa vie, justement, l'enfant a conscience de son sexe?
Oui, c'est un sujet très intéressant qui a été étudié à de nombreuses reprises et qui maintenant justement est éclairé grâce à nouveau à ces notions de plasticité cérébrale. À la naissance, bien évidemment, le petit nouveau-né ne connaît pas son sexe. Néanmoins, il est capable très tôt d'identifier ce qui relève du masculin et du féminin. Il va reconnaître les hommes et les femmes qui l'entourent à travers la voix, à travers les attitudes, à travers de nombreux comportements qui sont connus, qui font qu'on sait bien que les adultes ne vont pas se comporter de la même façon avec un bébé garçon et avec un bébé fille. Mmh. Par exemple, les bébés garçons sont souvent portés, on a plus d'échanges, d'interactions physiques avec les bébés garçons, alors que les petites filles, on va leur parler davantage, leur sourire, tout ça sont des comportements totalement inconscient, qui va faire que le regard des adultes va déjà influencer la façon dont le petit bébé humain va interagir. Et ce n'est qu'à partir de l'âge de 2 ans et demi que l'enfant est capable de s'identifier au genre masculin et féminin. Mais bien avant l'âge de 2 ans et demi, on lui a déjà sexué son environnement. On lui a acheté des habits différents selon qu'il est garçon et fille. On lui a décoré sa chambre différemment. Mmh. L'enfant, dès le départ, est déjà baigné dans justement les normes qui sont définies par la société, qui vont décrire ce qui relève du masculin et ce qui relève du féminin. Et on le sait bien, hein, ces normes sont l'objet d'évolution. Ces normes sont différentes également selon les cultures, selon les civilisations. Et si on s'adresse à un petit bébé qui naît dans un contexte français, on va dire, son expérience du masculin et du féminin ne sera pas la même qu'un petit bébé qui naît dans un contexte, dans un autre pays, asiatique, africain ou autre.
Éric Fassin, et puis les courriels, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui arrivent aussi.
J'ajoute juste un mot pour prolonger ce que dit Catherine Vidal, c'est-à-dire que non seulement il y a la question du genre, mais il y a aussi la question du sexe. Et je crois qu'il est important de rappeler que le sexe est une catégorie d'État. C'est l'État, par l'État civil, qui définit qu'on est homme ou femme. Alors on peut se dire, bah oui, mais l'État ne fait que sanctionner ce qui est dans la biologie. C'est un peu plus compliqué, puisque, par exemple, l'État peut, dans certains cas, reconnaître des changements de sexe et y mettre des conditions qui ne sont pas les mêmes selon les pays. En France, il faut avoir été opéré et stérilisé. Ça n'est pas le cas en Espagne. Donc, on voit bien qu'il y a là un choix social qui permet de définir ça c'est un homme, ça c'est une femme. Mais en Australie aujourd'hui, on vient de créer une troisième catégorie, les hommes, les femmes et les X. Donc, ça veut bien dire que même la catégorie de sexe est une catégorie d'État.
Alors justement, ce message de François, quels sont les critères pour déterminer un sexe masculin ou un sexe féminin? Est-ce que la génétique suffit dans le cas des hermaphrodites par exemple? Et est-ce qu'on peut dire, comme dans le cas des races, que le sexe n'existe pas? C'est vrai qu'on peut se poser la question au fond.
Il me semble, mais Catherine Vidal pourra préciser, compléter, corriger, mais il me semble que déjà pour la biologie, il n'y a pas une définition univoque du sexe. Puisqu'il y a le sexe chromosomique, il y a le sexe gonadique et il y a le sexe phénotypique. Et donc la question qui se pose pour les intersexes, c'est-à-dire les personnes dont le sexe est ambigu à la naissance, c'est précisément de voir comment s'articulent, se superposent de manière approximative ces trois définitions du sexe. Mmh. Donc il me semble que d'un point de vue biologique déjà, il n'y a pas une définition unitaire. Alors, la comparaison, me semble-t-il, avec les questions raciales, elle est compliquée, mais elle montre combien, dans un cas comme dans l'autre, eh bien, ça implique des tas d'opérations sociales pour décider vous êtes dans telle catégorie ou pas.
Catherine Vidal, là-dessus.
Oui, si on veut simplifier, on va dire qu'il existe sur le plan biologique, génétique, cette notion de différenciation sexuelle qui fait que les organes génitaux sont différents entre les hommes et les femmes. Il y a également ce qu'on appelle des caractères sexuels secondaires. Schématiquement, ces différences sont liées à une empreinte génétique qui est beaucoup liée aux chromosomes X et Y. Si maintenant on s'intéresse à l'identité sexuelle, c'est-à-dire la façon dont on va se vivre, homme ou femme, là, l'identité sexuelle, en fait, ça implique la réalité d'un vécu et donc ça implique le cerveau. Or, le cerveau, la façon dont on connaît maintenant les processus qui président à son développement, la façon dont le cerveau se développe est indépendante des chromosomes X et Y. Donc, on est vraiment dans une interaction permanente, hein, dans l'identité sexuelle. L'identité sexuelle relève à la fois de la biologie, de la psychologie et de la sociologie.
Alors cette question de Marion, est-ce que les hormones ne jouent pas quand même un rôle dans la sexualisation des êtres humains au niveau psychologique ?
Alors ça, c'est une question très intéressante qui a fait aussi l'objet de très nombreuses études. Ce qui est important de voir, c'est que dans le domaine scientifique, on a des arguments pour dire quelle est la part du biologique, quelle est la part de l'influence de l'environnement.
Alors les hormones ?
Alors les hormones jouent effectivement un rôle, mais ce n'est pas un rôle déterminant. Ce qui est déterminant, qui fait qu'on a de plus en plus d'éléments pour le comprendre, c'est cette plasticité cérébrale qui fait que c'est d'abord et avant tout l'influence de l'environnement, de la société, de la culture
qui va
nous forger dans nos identités d'hommes et de femmes et pas les hormones.
Éric Fassin, il nous reste 2 minutes. Ce courriel de Clémence, que penser de ces écoles suédoises qui pratiquent la théorie du genre en maternelle ? Les enfants y sont appelés « amis » et les mots « il » ou « elle » sont bannis. Alors ça fait référence à l'éducation neutre prônée par Judith Butler, justement, hein, qui a introduit ce concept du genre. Qu'est-ce qu'il en est alors de ce type d'expérience ?
Je ne suis pas sûr que Judith Butler revendique le neutre. Précisément, quand on travaille sur le genre, on a tendance à trouver que ce qu'on appelle neutre, c'est une forme de neutralisation. C'est-à-dire une manière de masquer la réalité du fait qu'opèrent des différences socialement pertinentes. Bon. Alors, est-ce qu'on doit avoir tel ou tel type d'éducation ? Eh bien, ça, c'est des choix politiques. Ça, ce n'est pas la science qui va nous dire comment on doit élever nos enfants. En revanche, ce qu'on peut faire scientifiquement, c'est montrer que, effectivement, la manière dont les enfants vont se construire, elle va se faire par rapport à ça aussi, c'est-à-dire par rapport à toutes les images de la différence entre les sexes qui sont diffusées socialement, y compris, bien sûr, par l'école, mais pas uniquement. Donc je crois que les études sur le genre, et je parle d'études sur le genre plutôt que de théorie, parce que...
Alors pourquoi oui ? Parce que vous rejetez ce terme de théorie du genre.
Bah oui, parce que si on dit une théorie, eh bien ça veut dire qu'on peut la prouver ou au contraire la réfuter. Il me semble qu'on n'est pas du tout dans ce cas-là. Le genre, c'est un concept qui permet, par exemple, de comprendre la différence entre le fait d'avoir une orientation sexuelle, par exemple pour une femme d'être lesbienne, et le fait d'être féminine. On peut dire, il n'y a pas de problème, on peut être les deux. Ça veut bien dire qu'il n'y a pas une adéquation entre l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Donc, c'est un outil conceptuel. Mais cet outil conceptuel, il sert dans tout un champ d'études pour des gens qui ne disent pas tous la même chose, qui dialoguent ensemble, qui parfois s'opposent. Et donc, il n'y a pas de réfutation du genre. Et je ne connais personne qui prétende réfuter le genre dans le champ scientifique. Il y a en revanche des débats à l'intérieur du champ d'études sur le genre.
Et les débats ne sont pas terminés. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de discussions à venir. Et on le disait tout à l'heure, au moins c'est le mérite de cette polémique, c'est de permettre de reclarifier les choses et puis d'expliquer un petit peu ce que la science a véritablement à nous dire sur cette question du genre. Merci beaucoup Catherine Vidal et Éric Fassin. Catherine Vidal, homme, femme, avons-nous le même cerveau ? C'est aux éditions Le Pommier, dans les Petites Pommes du Savoir. Et puis Éric Fassin, donc très bientôt en librairie, dans les jours qui viennent, homme, femme, quelle différence ? Avec Véronique Margron aux éditions Salvator. Merci à tous les deux.